RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, voici la rétrospective de votre actualité cette semaine. Alors évidemment, les intempéries ont fait la une, on ne va pas en reparler, on va plutôt reparler d'un dégel, mais pas d'un dégel météorologique. La réconciliation et la paix par le sport en Corée du Nord. Le chef d'État nord-coréen Kim Jong-un a donné lundi le premier signe que son pays pourrait participer le mois prochain aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud, en dépit des tensions suscitées par ses ambitions nucléaires. Premier signe d'ouverture, et toute la semaine, les deux capitales ont tricoté une à une ensemble à distance l'écharpe de laine de la réconciliation, en tout cas du rapprochement. Nous sommes disposés à prendre les mesures nécessaires, y compris envoyer notre délégation, a déclaré la Corée du Nord. Puis le téléphone rouge a été rétabli entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est le dictateur Kim Jong-un qui a ordonné ce rétablissement. Ce téléphone, unique moyen de communication entre les deux capitales, était coupé depuis 2013. La Corée du Sud a fini par faire une proposition de date pour une rencontre, non loin de la frontière entre les deux nations, et la Corée du Nord a accepté quelques heures plus tard cette proposition d'entamer des discussions bilatérales. Ce sera mardi 9 janvier. Le sujet principal de ces discussions sera la participation d'une délégation nord-coréenne aux Jeux Olympiques de Pyeongchang le mois prochain. Tout un symbole, et on imagine que ça passe très mal du côté de la Maison Blanche. D'ailleurs, à Washington, peut-être que la question du chantage est déjà envisagée. C'est ce qu'a affirmé un sénateur républicain de Caroline du Sud. J'ai l'intime conviction que si la Corée du Nord se rend aux Jeux Olympiques, nous n'irons pas, a-t-il déclaré. Dans l'actualité cette semaine, il y a aussi eu les agressions contre les policiers, avec ce passage à tabac de policiers lors de la nuit du 31 décembre, violemment tabassés. Les images ont été filmées par les émeutiers et postées sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron a fermement condamné. 24 heures plus tard, nouvelle agression dans les mêmes circonstances en région parisienne. Là encore, deux policiers isolés se retrouvant pris à partie. Et là encore, à chaque fois, l'un des deux policiers obligé de dégainer son arme de service et de la pointer pour se protéger son collègue. À chaque fois, on passe pas très loin du drame. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé une société de la violence. Les policiers ont commencé à manifester leur colère. Des rassemblements ont eu lieu cette semaine partout en France. Ils seront reçus, en tout cas les syndicats seront reçus mercredi par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Et puis on a appris cette semaine que les Français sont de plus en plus optimistes. Sondage Harris Interactive pour M6. 60% d'entre eux sont optimistes pour la nouvelle année 2018. Français optimistes, mais Français divisés. 6 Français sur 10 sont favorable à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes homosexuelles, à savoir faire un enfant sans père. Sondage IFOP publié dans le quotidien La Croix, que d'aucuns ont présenté comme un progrès, mais une autre interprétation est possible, comme celle de la Manif pour tous, qui affirme que l'opinion publique peut basculer, que au contraire ce sondage montre que le sujet divise profondément les Français. Tous ces sujets d'ailleurs de vie et de mort, ce qu'on appelle la bioéthique, c'est effectivement un terrain crispant, comme ce dernier événement en date, tombé vendredi. Le Conseil d'État a donné raison aux médecins d'un hôpital français qui a ordonné l'arrêt des traitements d'une adolescente de 14 ans en état végétatif depuis juin. Les parents ne voulaient pas arrêter les soins pour leur fille. Les médecins étaient d'avis contraire. La décision des médecins de laisser mourir répond aux exigences prévues par la loi, a décidé le Conseil d'État. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
Bonjour à tous et bon dimanche. La météo pour aujourd'hui avec de la pluie. Côté température, on va atteindre la maximale de 5 degrés cet après-midi. Et tout de suite, on retrouve Philippe Carnus pour votre émission Tribune Sport sur RVE.
RVE, 103.7. Écoutez, chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnus.
Et oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette grande première de l'année 2018. On s'était quitté donc avec le vice-président de la Fédération française de cyclisme, Jean-Michel Richefort, il y a une quinzaine de jours. On a pris une petite semaine de vacances et puis on se retrouve donc pour la grande rétro, hein, pour faire le lien entre cette année 2017 et 2018. Alors on va d'abord souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos auditeurs, hein, tout plein de joie, tout plein de bonheur et surtout tout plein de beaux événements sportifs. Et puis on va aussi souhaiter une bonne année à tous ceux qui nous entourent ce matin pour cette rétro. On va commencer avec celui qui nous parlera des principaux sports olympiques individuels hiver-été. C'est notre ami Hervé Joly. Hervé, bonjour, bonne année.
Bonjour Philippe, bonne année. Meilleurs vœux à tout le monde. Très bien, ça s'est bien passé. Voilà.
Très bien. Allez, on avait pris la mer pendant toute l'année 2017 à ses côtés. Il nous avait fait faire un beau direct avec Jean Le Cam. C'est notre ami Denis Gallienne. Salut Denis, on va parler voile avec vous.
Bonjour à tous, bonne année.
Voilà. Et puis elle nous parlera du coup de cœur du sport féminin. C'est Géraldine. Salut Géraldine. Et
bonjour à tous. Merci. Bonne année à vous à tous.
Ça va le sport féminin? Ça a été bien en 2017?
Très bien. Je suis ravie.
Ah oui, on a eu des beaux exploits. On en reparlera ce matin. Allez, notre ami José Vega, le plus portugais des fans du Paris Saint-Germain, qui nous parlera aussi hippisme et foot ce matin. C'est notre ami José. Salut José. Bonne année.
Bonjour à tous et bonne année à tous. Oui, tout va bien.
Très bien. Allez, on va parler aussi sport mécanique avec celui avec qui on fait souvent un point. C'est notre ami Stéphane Kahn. Salut Stéphane.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonne année. Meilleurs vœux.
Voilà. Il nous parlera des sports individuels, collectifs et aussi d'hippisme. Hein. L'homme omnisport comme nous. C'est Francis Coche. Salut Francis.
Bonjour. Bonjour à tous.
Ça va?
Ça va très bien.
Pleine forme?
Pleine forme.
Très bien. L'année commence bien. Allez, on va saluer notre ami Hervé Guérin, le président de la section tennis du Perret, qui nous parle de tennis et golf aussi. Hervé, il est très omnisport aussi. Ça va? Hervé, à qui on souhaite une bonne année?
Eh bien, bonne année RVE, bonne année à tous les sportifs et sportives.
Et puis il était venu dans un tribune foot au début du mois de novembre et ça lui plaît, donc il est revenu, il débute dans le journalisme, il faut l'encourager. C'est notre ami Benjamin Pinault. Ça va Benjamin?
Très bien, ouais. Je vais être parmi vous, mais RVE 2010.
Oui, bonne année. Bonne année.
Mais RVE 2010.
Voilà, très bien. Et puis on parle de vélo, puis aussi de boxe. Il aime bien aussi ça aussi. C'est Olivier Bourdin. Salut Olivier, bonne année.
Bonne année à tous, oui.
Voilà, et puis on a J. Schmitt qui va arriver, hein, qui nous parlera de ballon ovale tout à l'heure. Donc pour faire un petit peu le point, on va donc revenir, je l'ai dit, sur tous les événements de cette année 2017. Donc événements 2017, effectivement, qui nous ont marqué. Hein, Hervé, alors moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je crois que l'événement numéro 1, on a eu l'occasion de le vivre là-bas au Pérou, à Lima, c'était l'obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques par la France en 2024. Voilà, Hervé.
Oui, tout à fait.
Ça a été l'événement de l'année. Hein.
Oui.
On a eu la chance de le vivre à Lima, et en plus, vous pouvez réécouter l'émission le 24 septembre.
Voilà, en plus, c'est vrai qu'après plusieurs échecs successifs, Paris va retrouver les Jeux Olympiques. Précisément 100 ans après les derniers Jeux Olympiques d'été, je précise bien, parce qu'entre temps on a eu 3 fois les Jeux Olympiques d'hiver. Donc c'est un grand événement pour le sport français, le sport mondial, mais également le sport français. Et puis évidemment, on espère que tout va bien se passer. Il y a déjà, la machine est déjà enclenchée. Voilà, le train est sur les rails et je sais que ça travaille dur dans beaucoup de fédérations déjà pour l'organisation de ces Jeux 2024.
Oui, ça a été l'événement Los Angeles, donc qui a été finaliste. Hein, la France a eu ses concurrents à l'usure. Los Angeles qui a été finaliste, du coup, organisera donc les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2028.
Oui, et puis il faut quand même se rappeler que, à Paris, je vous le disais, ça remonte à un siècle, les derniers Jeux Olympiques d'été. Los Angeles les a déjà eu 2 fois entre-temps, hein, On va le rappeler en 32 et en 84. Donc on va dire que la logique est quand même relativement respectée. Et puis ils auront 4 ans après, hein. Ils auront juste à patienter 4 ans de plus, c'est tout.
Jardine, on était là-bas sur place, c'est vrai que quand on vit des moments comme ça, on est des privilégiés, quoi. Il n'y a pas d'autre mot.
Oh, c'était magnifique, c'était vraiment, il y avait quasiment pas de sécurité, gros moment d'émotion, pas vraiment de sécurité, donc on était vraiment avec les sportifs, au milieu des sportifs.
On a même cherché un sac.
Oui, voilà, je pense que vous ne me ramènerez pas avec vous, Philippe, parce qu'effectivement on a voulu faire exploser mon sac, mais c'était vraiment un moment vraiment d'émotion. Pourtant on connaissait le résultat, et malgré le résultat connu, on a vibré avec eux, et une fois que les résultats ont été annoncés, la première chose qu'ont fait les sportifs en sortant, c'est venir voir la presse, et faire des photos, faire des interviews, et Et vraiment, c'était une proximité totale. C'était génial. C'était un super moment.
Voilà. En tout cas, donc, ça a été pour nous l'événement sportif hein, de cette année qui a dépassé tout le reste. Ça va être un énorme booster pour notre pays. Alors, on va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé sur le terrain. On va commencer avec l'athlétisme. Hein. Hervé, on va d'abord revenir sur les championnats d'Europe en salle, où l'équipe de France a obtenu 3 médailles, deux médailles d'or et une médaille d'argent, avec un record en étape longue. Donc, pour Kevin Mayer, 6479 points. Et puis, naturellement, les championnats du monde. Donc, l'été à Londres, hein, trois médailles d'or, deux médailles de bronze. Alors, on citera notamment la victoire de Pierre-Antoine Boss sur 800 mètres, Kevin Mayer au décathlon, et puis Johan Diniz, donc en 50 km marche, qui sont titrés. Ça a été le combat de troupe pour Usain Bolt, hein, qui a terminé troisième au 100 mètres et qui a abandonné au 4x100. Triste adieu, mais bon résultat pour l'athlétisme français, les meilleurs depuis donc 2005.
Oui, alors on va revenir. Ouais, alors tout à fait, l'année avait commencé à Belgrade en février avec Kevin Mayer qui remportait son premier titre international chez les seniors en devenant champion d'Europe et recordman d'Europe de l'heptathlon. Floria Gay également qui avait remporté la médaille d'or sur le 400. Et puis bien sûr, au mois d'août, il y a eu les championnats du monde à Londres avec Kevin Mayer qui devient le premier français champion du monde de décathlon.
C'est pas rien.
8768 points, voilà. La très belle victoire, un peu surprise, on va le dire, demi-surprise de Pierre-Ambroise Boss.
Quelle droite.
Voilà, sur le 800 mètres. Alors lui, oui. C'est-à-dire qu'il avait l'habitude depuis quelques années de craquer un peu dans la dernière ligne droite. Là, il a tenté le tout pour le tout à 300 mètres de la ligne et beaucoup de ses adversaires, en fait, y ont pas cru. Donc, quand ils se sont réveillés, c'était un peu trop tard. En tout cas, il a très bien joué le coup. Et puis, on va pas oublier également la très belle médaille d'or à 39 ans de Johan Diniz sur le 50 km.
J'allais dire enfin pour Johan Diniz.
Voilà,
enfin.
10 ans après sa médaille d'argent d'Osaka, avec un très beau chrono sur le 50 km marche, puisque c'est le deuxième chrono de l'histoire, derrière son propre record du monde de la spécialité. Alors, les championnats du monde, alors évidemment, on a des petites déceptions. On attendait l'or pour Renaud Lavillenie qui doit se contenter du bronze. La perche, c'est vrai qu'il a une malédiction avec les championnats du monde, parce que il a déjà été deux fois champion olympique, quatre fois champion d'Europe, mais jamais champion du monde. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il a été battu par l'Américain Sam Kendricks. Médaille de bronze également au lancer du marteau pour Mélina Robert-Michon. Voilà. Et puis, évidemment, une des images qui a marqué certainement beaucoup de téléspectateurs, c'est Usain Bolt. Ouais. Alors, il s'incline sur le 100 mètres. Là, je veux dire, il termine troisième pour 2 centièmes.
Oui, mais c'est le combat de trop. C'est le combat de trop.
Mais je vais pas polémiquer là-dessus, parce que le vainqueur, c'est Justine Gatlin. Et je pense que s'il y avait eu des hommes courageux à la Fédération Internationale d'Athlétisme, Justine Gatlin n'aurait jamais dû prendre le départ en étant ex-dopé et multirécidiviste. Ça, c'est un autre problème. Bolt a déclaré forfait sur le 200 et malheureusement voilà l'image qui a marqué c'est le claquage dans la ligne droite sur le relais 4x100 qui coûte une médaille, peut-être la victoire, mais au moins une médaille à son équipe, mais on va pas lui reprocher avec toutes celles qu'il a fait déjà gagner à la Jamaïque. C'est vrai que malheureusement pour lui c'est une sortie un peu triste, quoi, une fin de carrière un peu raté de ce côté-là. Mais bon, une blessure c'est jamais vraiment prévisible, même si on savait que ces championnats serait difficile pour lui parce qu'il arrive vraiment en fin de carrière et ça commence à coincer depuis quelques années au niveau de sa musculaire.
Voilà, et puis Hervé, sur un plan plus local, plus régional, il y a eu beaucoup d'annulations d'épreuves sportives cette année. Je me rappelle qu'en 2017, ça a même provoqué le coup de gueule d'Hervé Joly au micro d'Hervé. Bon, depuis, il y a de bonnes nouvelles, la course des quatre châteaux est repartie, et puis on a annoncé que le semi-marathon de Rambouillet hein, repartira le 11 mars prochain.
Voilà, pour la 31e édition.
Oui. Le Raid 28 n'avait pas eu lieu aussi l'année dernière, mais il aura lieu cette année aussi, voilà, alors, ça sera le 27 janvier.
Il y a eu un très beau papier là, qui est sorti dans un grand magazine de course à pied il y a un mois, qui expliquait qu'en 2017, il y avait eu plus de 100 courses annulées sur le territoire national, dont une dizaine dans les Yvelines, suite notamment au plan Vigipirate et à l'alerte attentat, avec toutes les normes de sécurité qui sont demandées maintenant. La bonne nouvelle, c'est que le semi-marathon de Rambouillet fera son retour le 11 mars prochain pour la 31e édition.
Et on le fera vivre comme chaque année, on l'arrête.
Vous pouvez encore vous inscrire, mais je peux vous dire que ça a été un combat long à mener, qui a eu beaucoup de contraintes demandées, beaucoup d'efforts consentis des deux côtés. Voilà, quand ça va pas, je râle, mais quand ça va bien, je le dis aussi. Donc on peut remercier un certain nombre de personnes, notamment Gaël Barbotin au service des sports de la mairie de Rambouillet, qui nous a beaucoup aidés. Oui, On a des modifications sur le parcours, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une émission spéciale d'ici quelques semaines.
Très bien. Allez, en natation, donc, un bilan assez mitigé quand même pour donc l'équipe de France au championnat du monde à Budapest. Une seule médaille d'or et une médaille de bronze. Mais quelle médaille d'or, hein, c'est Camille Lacour qui termine donc sa carrière par un titre en 50 mètres d'eau. Et puis, un bilan un peu meilleur quand même au championnat d'Europe en petit bassin à Copenhague. Une médaille d'or, deux médailles d'argent, cinq médailles de bronze. On a le sentiment qu'on a vécu une génération et que maintenant, il va falloir passer par un renouvellement.
Oui, effectivement, c'est une page qui se tourne dans la natation française. Alors, on va féliciter encore une fois Camille Lacour, qui remporte un nouveau titre de champion du monde sur le 50 mètres d'eau. C'est son troisième titre mondial dans cette spécialité, hein, après 2013 et 2015. Et il devient en même temps le seul Français... 5 fois champion du monde, puisqu'il avait gagné également sur 100 mètres d'eau et dans un relais 4 nages. Et puis, il termine sa carrière là-dessus, donc il peut pas finir de meilleure façon. C'est vrai que il a 32 ans, ce qui pour un nageur est un âge relativement avancé. Voilà. Et c'est vrai que c'est avec lui, c'est un peu la fin d'une génération. On l'avait vécu déjà il y a quelques années avec Alain Bernard, où il y avait déjà eu un pas. Derrière, il y a eu des gens comme Yannick Agnel. On sait que Manodou a fait une pause. Manodou a fait une pause pour l'instant. On espère une pause, mais je ne sais pas s'il reviendra. En tout cas, il va y avoir beaucoup de changements dans la natation française dans les 2-3 ans qui viennent. On peut aussi quand même féliciter Mehdi Metella, qui revient avec une très belle médaille de bronze sur le 100 mètres nage libre, derrière les deux intouchables américains Caleb Dressel et Nathan Adrian. Je pense que il y a une page qui va se tourner là dans les mois et les années dans les deux ans qui viennent au niveau de la natation française, parce que il y a un certain nombre de leaders qui prennent leur retraite, qui passent la main, et donc il va falloir que ça se renouvelle. Et c'est vrai que là c'est un peu la fin d'une génération dorée. Risque d'être un petit peu plus compliqué là dans les 2-3 ans qui viennent.
Voilà, et puis deux sports qui en tout cas vont bien une nouvelle fois, c'est le judo et puis l'escrime. Le judo, deux médailles d'or, trois argent, deux bronzes au championnat d'Europe en Pologne, et puis quatre médailles, deux or, deux bronzes au championnat du monde à Budapest, et puis naturellement un 9e titre pour Teddy Riner en poids lourd et un 10e en toute catégorie, ce qui en fait encore le sportif français d'année. En plus, c'est un type très sympa qu'on a eu l'occasion de côtoyer, c'est un type très sympa.
Oui, moi je l'ai déjà rencontré également. Ouais. C'est difficile de trouver plus sympa dans le milieu du sport. Il n'y a pas du tout la grosse tête.
Il se prend pour salut. Hein.
Du tout la grosse tête. Très abordable. Oui. Très abordable. Voilà. Il aime beaucoup rigoler. En plus,
On en fait quelque chose.
Donc ça se passe très bien. Oui, alors c'est vrai que pour lui, c'est une très bonne année, puisque 9e titre mondial dans les plus de 100 kilos. 10e médaille d'or en toute catégorie. On va rappeler qu'il est quand même invaincu depuis quelques années maintenant, depuis 2010, avec près de plus de 140 victoires obtenues depuis. Teddy Riner, on a déjà usé tous les qualificatifs le concernant. C'est vrai que pour l'instant, il y a un moment donné évidemment où ça s'arrêtera, mais pour l'instant là, il a une carrière magnifique et il marquera de toute façon l'histoire du judo mondial. Jamais. Il y a eu d'autres médailles également. On va rappeler la médaille d'or en moins de 63 kilos chez les femmes de Clarisse Agbegueinou, qui l'emporte également dans sa catégorie.
Voilà. Et puis en escrime aussi, deux très bons résultats. Oui. Trois médailles d'or, trois médailles de bronze pour l'équipe de France au championnat d'Europe à Tbilissi. Et puis six médailles, une or, cinq bronzes au championnat du monde à Leipzig, l'équipe masculine d'épée qui est récompensée donc par l'or. Ça, c'est bien que ces sports-là, qui soient toujours donc pourvoyeurs de médailles, puissent à nouveau être fin prêt pour les Olympiades dans deux ans.
Oui, depuis très longtemps, l'escrime, pour l'équipe d'épée, c'est le 22e titre mondial. Là, ils sont imposés en finale contre la Suisse. Dans cette équipe, on va citer Jean-Michel Lusnay, qui était devenu champion olympique par équipe en 2016 et qui a remporté depuis cinq médailles d'or mondiales. Dans cette spécialité et puis l'escrime, c'est vrai que depuis toujours ça a été une grande discipline pourvoyeur de nombreuses médailles pour la France, même s'il y a eu un petit creux là depuis quelques années. On retrouve toujours les 3-4 mêmes sports en tête des médailles, dont l'escrime fait partie, l'équitation également, le cyclisme sur piste,
on en parlera avec Olivier,
et le judo également, même si le judo n'est arrivé aux Jeux Olympiques qu'en 1964.
Et puis dernier petit sport donc abordé, c'était en France, c'était les championnats du monde de lutte, une seule médaille de bronze. Ça, c'est une grosse déception quand même.
Oui, alors c'est vrai que
au championnat du monde, une seule médaille, c'est une grosse déception.
Oui, on va dire que c'est vrai que la France n'a jamais été un grand pays de lutte, mais depuis quelques années, On a quand même un certain nombre de lutteurs qui ont marqué.
On a eu quand même des médailles avec les champions olympiques ces derniers temps.
Notamment avec les frères Gagnon, qui avaient remporté des médailles. Et puis on va quand même saluer, même si c'est la seule médaille, Mathilde Rivière, donc, qui remporte le bronze face à Alexandra Andreeva, la Russe, en finale à Novi Sad en Serbie. C'est vrai qu'on s'attendait à d'autres médailles supplémentaires en lutte. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu.
Voilà, puis on va rappeler que Denis Masséguière, qu'on connaît bien aussi, qui est un type charmant, il a été réélu président donc du CNOSF au cours de cette année 2017. Allez, on marque une petite pause musicale, une petite page de pub, et ensuite on passe aux disciplines d'hiver, Hervé, où ça a été assez brillant pour le sport français en 2017. On y va.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 50 ou sur notre site brifo-électricité.com.
En centre-ville à Rambouillet, 95 rue du Général de Gaulle, votre traiteur traditionnel au carré d'or et son chef, un restaurateur de la région, vous propose ses entrées et ses plats garnis cuisinés à emporter à 9,60€ sur plats décorés et bouquetières de légumes et ses plats prêts à mettre au four à 12,50€ sur commande. Le carré d'or, c'est aussi son foie gras de canard maison, son saumon d'Écosse label rouge fumé, ses bouchées à la reine à l'ancienne, ses noix de Saint-Jacques au champagne et ses desserts maison. Alors pour vos repas de famille, vos baptêmes, communions, fiançailles, anniversaire et repas de mariage, entre amis ou en entreprise, le Carré d'Or, 95 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, 01 34 57 34 40 et sur www.carré-d'or-traiteur.fr. Fermez le lundi. Pour votre santé, bougez plus.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
RVE.
Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au durlot. Et je me suis fait virer.
Et je me suis fait virer.
Et les Beach Boys chantaient.
Et les Beach Boys chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around. Vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait.
Et Saint-Malo dormait.
Et les radios chantaient.
Et les radios chantaient.
Un truc qui me colle. Jimmy, ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez le disquaire, c'est dingue. Avec un single des Stones caché sous ses fringues. Et les loulous roulaient.
Et les loulous roulaient.
Et les cailloux chantaient.
Et les cailloux chantaient.
Un truc qui me colle.
On va parler maintenant, Hervé, des principales disciplines d'hiver, hein, où ça a été assez brillant pour donc, nos Français et Françaises. En ski alpin, donc, au championnat du monde, 2 médailles d'or donc pour l'équipe de France, dont une pour Tessa Worley au slalom géant. Et en plus, Tessa Worley qui gagne la Coupe du Monde dans la spécialité, dans la discipline.
Tout à fait, ça a reposé dans le géant, hein, c'est sa spécialité. Elle a remporté 3 succès cette saison dans le géant, voilà, avec notamment une très belle victoire à Maribor, là-bas, en Slovénie. Mmh. C'est son 2e titre de championne du monde de géant consécutif. Mmh. Donc ça, c'était à Saint-Moritz. En tout cas, très belle victoire pour Tessa Worley, dont il faut rappeler que quelques mois avant, elle avait subi une très grosse blessure. C'était son retour après sa blessure. Et donc, un très beau succès pour Tessa Worley. Un tout petit bout de femme d'1m58, mais je peux vous dire, particulièrement dynamique.
Alors, dans un quotidien que vous connaissez bien, hein, elle a été élue championne des championnes France de l'année. Hein. Oui. Tessa Worley, c'est Teddy Riner qui est le champion des champions France, donc chez les hommes. Et puis, sur le plan international, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais c'est Rafael Nadal et Roger Federer qui se partagent la palme, champion des champions monde. Et puis, Teddy Lekedi, donc l'américaine nageuse, qui est les champions des champions de monde chez les femmes. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Et puis, au classement général final de la Coupe du Monde, eh bien, chez les hommes, victoire de Marcel Hirscher, l'Autrichien, oui. Et Michaela Schifrin, l'américaine, donc, qui l'emporte chez les dames. Voilà.
Oui, très belle saison de Michaela Schifrin qui a complètement, survolé le ski alpin féminin cette saison.
Alors, en biathlon, très bon résultat, hein. 7 médailles, 1 or, 2 argent, 4 bronzes au championnat du monde pour l'équipe de France en Autriche. Martin Fourcade à lui seul qui décroche donc 5 médailles d'or, 5 des 7 médailles. Et puis, en parallèle, il décroche aussi une 6e victoire en Coupe du Monde au classement général final.
Tout à fait, encore une très belle saison pour Martin Fourcade. Alors, c'est vrai que quand il obtient pas l'or, maintenant, on a tendance à être déçu, mais bon, il a quand même obtenu, 5 médailles à ses championnats du monde, dont une en or, mais également l'argent en relais mixte et relais homme, et puis le bronze en sprint et en individuel. Cette année, il a obtenu tout au long de la saison 14 victoires Coupe du Monde et Championnat du Monde réunis, ce qui est le record absolu chez les hommes en biathlon. Et puis également son 6e gros globe de cristal consécutif, qui égale le record de Ole Bjørndalen, le Norvégien, voilà, qui était la figure de proue du biathlon avant que Martin Fourcade arrive. Très belle saison pour Martin Fourcade, avec une belle victoire en tout début de saison, c'était les premiers jours de janvier à Oberhof en Allemagne, voilà, qui laissait percevoir ce qui allait se passer par la suite. En tout cas, une très très belle saison pour Martin Fourcade.
Et puis donc, en ski acrobatique, on a Jean-Frédéric Chapuis qui décroche donc sa troisième Coupe du Monde consécutive.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est des disciplines dont on parle
très peu,
un petit peu
chez nous.
Oui, un petit peu moins, mais on a eu un certain nombre de médailles, voilà, en ski acrobatique, en ski freestyle, notamment en Coupe du Monde, en halfpipe, voilà, et puis en slopestyle également, toujours dans les skis, dans le ski freestyle, voilà. Mais donc, c'est des disciplines dont on parle peu, mais il faut se souvenir que ramène également des médailles, notamment, on va pas oublier le combiné nordique également, avec François Bourreau qui revient avec la médaille de bronze au championnat du monde de combiné nordique, et puis la très belle saison aussi qu'il faut souligner en ski de fond de Maurice Magnifica aussi, qui a
très bien
une très belle saison.
Ouais. Très bien. Allez, en patinage artistique, donc le couple Papadakis Tizeron, oui, sont champions d'Europe et vice-champions du monde en danse sur glace, hein, à Ostrava et Helsinki. James Cyprès, donc les Français, terminent troisième donc au championnat d'Europe de couple. Donc c'est Fernandez, l'Espagnol, qui est champion d'Europe chez les hommes, et Anui, le Japonais, qui est champion du monde chez les hommes, et puis Medvedeva, donc la Russe, qui fait le doublé, championne d'Europe et championne du monde.
Voilà. Alors on va souligner encore la belle performance de Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, hein, voilà, puisqu'ils font l'argent en général derrière les Canadiens Virtue et Moir, mais ils obtiennent la médaille d'or en libre, exactement comme ça avait été le cas trois mois plus tôt à Ostrava, au championnat du monde, au championnat d'Europe de patinage artistique, et puis également voilà la très belle médaille de bronze de Vanessa James et Morgan Cyprès également à Ostrava, toujours en République tchèque.
Voilà, alors pour conclure, hein, sur ces sports olympiques individuels et hiver, je voulais quand même dire qu'on a vécu une belle soirée des victoires sportives au Conseil régional d'Île-de-France. On a récompensé tous les meilleurs sportifs et sportives donc pour l'année 2017. Hein, ils sont les gens donc dans le sport francilien. Et puis une petite pensée aussi pour Patrick Bonneau qui organise ce matin son marathon des Yvelines.
Tout à fait.
Et qui a été un des grands héros de l'année sportive, hein, puisqu'il
fait.
A fait son raid de multisport sur trois continents. Donc on voulait naturellement l'associer aux grandes performances de cette année 2017. On va parler maintenant des principaux sports olympiques collectifs, et ensuite on passera aux chevaux avec Francis Coche. Alors Francis, quelle année le hand, on commence 2017.
Le hand, c'était la poteuse, ouais, fin d'année.
On commence 2017 par une victoire donc des hommes, sixième titre mondial, hein, 33-26 devant la Norvège, et puis on termine l'année avec une victoire des filles, donc là aussi devant la Norvège, 23-21, deuxième titre consécutif. C'est du jamais vu, le doublé depuis donc la Russie en 82.
Oui, le doublé pour la fin de l'année, c'était très bien. L'avantage avec les filles, c'est que c'est une génération nouvelle, je dirais. Contrairement aux hommes, où c'est pratiquement une génération...
Ça se renouvelle d'un quart à chaque fois.
Oui, mais là, j'ai peur que pour les garçons, il y ait un petit passage à vide. Là.
On dit ça à chaque fois. Et puis
on dit ça à chaque fois, mais il y a quelques-uns, il y a quelques figures de l'équipe.
Ouais,
mais
quelques, et deux Olympiques.
Il y a quelques joueurs majeurs qui vont prendre leur retraite internationale.
Omeyer, qui s'arrête, Jérôme Fernandez aussi, hein, ça fait
Karabatic aussi,
et puis, ouais, ça fait
Narcisse,
donc ça va faire un sacré trou
dans leur carrière, ouais.
Ouais, alors que les filles, ça s'est renouvelé tout de même, hein. Je pense qu'il y a
expliquer ce succès du hand, Francis?
Ah, ça c'est le secret des entraîneurs, je pense. On le voit surtout avec l'entraîneur des filles, hein, qui est revenu après avoir été limogé. On l'a rappelé après avoir été limogé, donc bon.
Alors justement, ça tombe bien parce que c'est le coup de cœur féminin de l'année 2017 pour Géraldine.
Oui, je commence à m'inquiéter là. Je voyais qu'on en parlait, je me suis dit, là je commençais vraiment à m'inquiéter.
Non, la fin de l'année.
J'avais l'œil noir là, je commençais à regarder. Non, c'est mon coup de cœur de cette année. Vraiment, le hand, elles l'ont fait. On était avec elles, ça a été une finale, mais fantastique. Vraiment fantastique.
Ça a été imprenant même à la télé. Hein.
Ça a été, ouais. C'était,
et puis
il fallait pas être cardiaque.
Marc Gauthon, il porte chance à l'équipe de France Hollande.
C'est vrai.
Femme, il porte chance.
Il fallait pas être cardiaque. C'est vrai que juste deux points d'écart, il y a eu une défense hallucinante. Vraiment, elles ont été excellentes. On a eu la gardienne qui a été géniale, vraiment.
Oui.
Donc ça a été vraiment jusqu'au bout. Et là, vraiment, mon coup de cœur est là parce que on était avec les filles. Et les filles ont dit, on le fera. Elles partaient vraiment pas favorites.
C'est vrai qu'elles ont toujours dit qu'elles le feraient.
Oui.
Elles sont toujours parties avec le message de vouloir gagner.
Elles perdaient à très peu à chaque fois. Donc c'est vrai que c'était.
Et puis la gardienne a été très bonne. Ouais. La remplaçante de Valérie Nicolas, tout de même, elle a marqué ce territoire.
Oui. Exactement.
Clé de hand, toujours.
Exactement. Non, ça a été un super moment. Et c'est vrai que les filles l'ont fait. Elles ont eu un moral d'acier parce qu'elles partaient vraiment pas favorites. La Norvège était plus que favorite. Donc là, vraiment. en tant que femme, j'étais ravie de voir que c'était les femmes qui gagnaient, qui mettaient le hand à l'honneur. Et justement, je voudrais faire un petit clin d'œil au niveau local, parce qu'il y a le club de Ono qui nous a amené à Bercy quand même. On a été à Bercy voir les filles de Prénat de Ono, avec Flavie Bouteilly entre autres, qui a joué avec nous au volley. Donc petit clin d'œil. Et du coup, on a vibré réellement parce qu'il y a eu un point d'écart. Elles ont gagné les championnats de France. Donc on était à Bercy, on avait vraiment notre moment. Et il y avait un point d'écart et on a vibré avec elles, on a pleuré. Enfin, c'était vraiment, on a fait la fête avec elles. Et là, elles sont en train de continuer à gagner. Pour le moment, elles sont 3e de leur championnat. Et elles vont jouer là, sur le mois de janvier, les 16e et 8e de finale en 2 jours. Donc, on va les suivre parce que c'est vrai qu'elles ont un super résultat. Donc, vive les filles, vive le hand, vive le sport co.
Eh ben, c'est bien. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle de cette année 2017, année exceptionnelle. Donc, 2e titre de champion du monde des femmes pour le hand, 6e pour les hommes. Et puis, on va leur souhaiter bonne chance.
On espère que ça continuera au championnat d'Europe cette année.
C'est une première mondiale, il faut le rappeler aussi.
Pour nous, les Russes avaient fait doubler en 82 pour la France. Pour nous, oui. Les Russes avaient fait doubler en 82. Bon, Francis, le basket, ça s'est un peu moins bien passé par le train. L'équipe de France battue une nouvelle fois en finale de l'Euro, 71-55 contre l'équipe d'Espagne. Troisième finale consécutif perdu, l'équipe de France donc qui quand même termine à la deuxième place, 2013, 2015, 2017, trois finales perdues. C'est la Slovénie qui est championne d'Europe chez les hommes en l'emportant face à la Serbie, 93-85. L'équipe de France très décevante s'est fait sortir donc au stade des huitièmes de finale contre l'Allemagne, 84-81.
Ouais, mais l'équipe de France avait perdu quelques éléments majeurs, ça s'explique aussi, mais c'est vrai que la relève tarde à arriver tout de même.
Ouais. Et ces finales perdues par les filles du basket, qui ont quand même été deux fois champions d'Europe dans le passé, elles terminent trois fois deuxième, à chaque fois il manque quelque chose.
La seconde place,
si c'était le match contre l'Espagne, il n'y a pas eu,
photo. Et puis c'était entre nous, c'était un peu inespéré de se terminer second. Hein.
Ouais.
Bon résultat pour les filles également.
Bon, on va quand même saluer Céline Dumère et puis Gaël Skrada qui met un terme à leur carrière, Fernandez, Omeyer et Narcisse pour le hand.
Des éléments qui ont marqué leur territoire dans leur spécialité, c'est sûr.
Allez, le volley, ça s'est un peu aussi moins bien passé pour l'équipe de France, qui a certes gagné la Ligue mondiale face au Brésil, 3-2 au Brésil, mais qui a complètement raté donc son championnat d'Europe, éliminé au premier tour, victoire finale de la Russie face à l'Allemagne 3-2.
Oui, on peut se poser comme question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on les voyait tout gagner, et puis d'un seul coup, ça s'écroule au premier tour, donc inexplicable, je ne sais pas pourquoi.
Alors, Géraldine qui est volleyeuse, pourquoi Géraldine, l'équipe de France gagne la Ligue mondiale au Brésil et se foire complètement au championnat d'Europe?
Et bien justement, on ne l'explique pas. Parce qu'on était pas. Ils ont fait des super résultats. Ils ont fait des super résultats d'ailleurs qui ont amené des adhérents tout au long de l'année. Et puis là, on n'a vraiment pas compris ce qui s'était passé. Donc on était tous prêts à refaire la fête.
Est-ce
et on
que
était,
c'est une décompression, mais.
Ouais. C'est la gestion. Sportivement, ils sont là. Maintenant, c'est la gestion d'équipe. C'est ce qu'est le point faible de la France. Hein. C'est gérer sportivement les résultats après.
Le c'est le faire. La preuve, il y a ce renouvellement permanent et depuis 95, quoi. Faut pas l'oublier. Voilà. On va rappeler que Chalon-sur-Saône chez les hommes et Villeneuve-d'Ascq chez les femmes en basket sont championnes de France et championnes de France. Paris Saint-Germain, donc en handball, et Metz, chez les femmes, le sont donc au hand. Et le PSG, qui a joué une finale de Ligue des Champions face à une équipe macédonienne, Skopje, et qui a été battue en finale 24-23, Hervé. Et puis Chaumont, donc chez les hommes, et l'SPTT Mulhouse, chez les femmes, qui sont titrées donc pour le volley-ball.
Parenthèse locale, Rambouillet en basket a été champion des Yvelines et a fait le doublé, a gagné la Coupe des Yvelines. Également.
C'est ce que je voulais aussi vous entendre dire, mon cher Francis. Voilà. Et puis le foot féminin, vous aimez bien?
Ah, ça, j'adore, oui.
Francis. Ouais, mais le problème, c'est que ça se passe pas très bien pour l'équipe de France depuis un moment. Hein. Battu en quart de finale face à l'Angleterre 1-0, donc pour le championnat d'Europe, c'est les Pays-Bas qui s'imposent contre le Danemark 4-2, ce qui a emmené à la tête de la sélection, la copine de Géraldine, donc Corinne Diacre, donc à la tête de cette équipe de France.
Oui, mais c'est pareil, c'est une équipe en renouvellement. Ça commence à revenir, je trouve. Ouais, je suis un peu plus optimiste depuis les derniers matchs.
Toujours un quart de finale, que ce soit dans un tournoi olympique.
Sur un malentendu, il faut y croire.
Je ne crois pas trop les malentendus en sport. J'y crois pas trop. Oui, enfin dans le passé, ouais. Mais à chaque fois, il manque le petit quelque chose pour aller au bout du titre, quoi.
Oui, mais moi, j'ai de l'espoir pour cette année, parce que c'est championnat d'Europe cette année.
Oui. Par contre, ça a été l'année de Lyon, hein, chez les femmes, qui ont fait le triplé, ouais, championnat mais vous avez vu, Coupe de France et Ligue des Champions.
L'Armada de Lyon, c'est ouais. même plus une équipe de club, là, tout à fait entre nous.
Qui par deux fois a battu le PSG, donc en finale, 7-6 au tir au but en finale de Coupe de France, après un 1-1, et puis qui a gagné aussi la Ligue des Champions.
Ouais. Voilà. Pour photo. L'année dernière, ils ont été battus par le PSG, mais c'était aussi sur un malentendu, à mon avis. Enfin, bref.
Allez, on passe à l'hippisme maintenant, donc avec José et puis Francis. Alors, on va d'abord faire un petit coucou à Boris.
Bonjour à Boris, qui est parti pour des raisons professionnelles vers Bordeaux.
Oui. J'espère qu'il écoute le podcast.
Ouais, il doit écouter. Je pense qu'il doit écouter par Internet.
Et puis, son cheval tourne bien. Aranui est toujours basé à Angers et normalement, il se débrouille bien.
Alors, José, cravache d'or donc pour Christophe Soumillon, oui. Et 19e Sulky d'or pour quelqu'un qu'on connaît bien, qui vient souvent à l'hippodrome de Rambouillet, c'est Jean-Michel Bazire.
Jean-Michel Bazire, le champion de toute catégorie. C'est vrai qu'il est venu plusieurs fois à l'hippodrome de Rambouillet. Et on peut noter donc dans cette historique surtout un grand champion, c'est Bold Eagle.
Oui, alors justement, avec Franck Nivard qui a remporté son deuxième prix d'Amérique.
Voilà, et il participera
c'est
encore.
C'est le championnat du monde des trotteurs.
Cette année, je pense qu'il va encore être champion. Timoko a arrêté sa carrière l'année dernière puisqu'il arrivait à l'âge limite de 10 ans pour un trotteur. Et il y a eu les préparatoires, là, les prix Bourgogne, Bourbonnais et Belgique. Et je pense que Bold Eagle va être encore dans les clous et il va viser encore la victoire avec Franck Nivard. C'est vraiment un champion de toute catégorie, je l'ai déjà dit. Et puis c'est vrai que pour être battu, il va falloir sortir le grand jeu.
Et puis Enable, donc le cheval anglais monté par Franck Dettori, remporte lui le championnat
Franck
des
Dettori,
galopeurs,
l'Italien
Qatar,
aussi,
Arc de Triomphe.
Oui. Franck Dettori, un grand champion italien aussi, qui monte des grands champions et qui a gagné tous les classiques, tous les plus grands prix, y compris l'Arc de Triomphe.
Et puis, enfin, important cette année pour nous, à l'hippodrome de Rambouillet, ça a été la sortie du timbre à l'effigie de l'hippodrome. On a vécu ça, on y était, et ça a été un moment important, hein, Francis.
Un moment important, une belle journée, ouais. Bien organisée, donc très sympathique.
Bon succès.
Hippodrome champêtre, hein, Rambouillet, c'est sympa, oui.
Tiens, je voulais reparler sur le sport féminin, c'était le même week-end, Géraldine. On va quand même rappeler le succès aussi rencontré par donc le thème de la fête du sport de Rambouillet, sport en femmes. Hein, c'était fin juin, c'était une belle journée aussi, ça fait partie des grands moments sportifs qu'on a vécu sur Rambouillet.
Oui, ben voilà, les femmes sont à l'honneur, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Moi je suis ravie, hein.
Ravie. C'est bien ça, on a bien parlé de la situation du sport féminin.
Exactement.
Très bien, allez Olivier, on va parler vélo et boxe après, on parlera vélo, l'année Christopher Froome, non je l'embête là, l'année Christopher Froome, puisque effectivement Christopher Froome il était vélo d'or, il a gagné cette année le Tour de France, un Tour de France très spectaculaire, et puis le Tour d'Espagne, bon depuis il y a eu un contrôle qui a été dit anormal sur le Tour d'Espagne, on peut quand même considérer que ça reste le coureur de l'année.
Non.
Il est vélo d'or quand même. Hein. Quatrième Tour de France.
Pour moi, c'est pas l'homme de l'année. Pour moi, l'homme de l'année, c'est encore Sagan.
Oui, on en reparlera aussi.
Parce que pour moi, l'homme de l'année, c'est celui qui court du début de l'année jusqu'à la fin de saison.
Oui, mais c'est fini chez les coureurs maintenant.
Oui, mais c'est fini. Mais enfin, il y en a qui le font toujours. Maintenant. Après, les autres, ceux qui font que les grands tours, trois grands tours dans l'année avec des moyens spécifiques, on n'en parle pas. Pour moi, c'est pas. En plus, c'est pas des beaux coureurs. Un Froome, pour moi, c'est pas un beau coureur sur un vélo. Mais pour moi, ce sont des gens qui vont faire Philippe Gilbert qui gagne encore le Tour des Flandres. Avec du style, Sagan aussi, on voit ces compétitions.
Trois titres de champion du monde, ça c'est exceptionnel quand même.
C'est exceptionnel, et puis c'est la façon de le faire.
Très charismatique, quoi.
Voilà. C'est que lui, c'est une course sans oreillette. Faut savoir quand même, lui, il prend, il à l'ancienne et il tape dedans, et puis voilà, ça, il fait tout péter, et puis voilà, c'est le plus costaud qui suit. Hein. Alors que Froome, sur un tour, il y a sans oreillette, ce serait serait un petit âne de course. Hein. Voilà, donc. Non, Froome, oui, il gagne son tour, le Tour de France, bien disputé.
Alors, on va rappeler quand même qu'il s'impose devant Uran, le Colombien, et Bardet, le Français. Un tour sympa, un tour spectaculaire, ce qui nous a un peu changé sur ces dernières années, où c'est vrai qu'on s'y était un peu ennuyé, avec 5 victoires françaises. française, hein, quand même, Olivier. Demar, Bardet, Calmejane, et puis surtout deux fois Barguil, dont une étape le 14 juillet.
Mais bien sûr, c'est le renouveau un peu de la nouvelle génération, avec Bardet, Barguil, ça arrive. Et puis c'est vrai que spectaculaire. Enfin, même à ASO, depuis quelques années, ils nous font des Tours de France qui sont bien spectaculaires. Ils nous mettent des épreuves. Après, c'est les coureurs qui font la course, mais ils mettent en place, en tout cas, des parcours qui font que ça soit spectaculaire, comme on verra aussi dans celui en 2018. Après, ce sont les coureurs, mais le fait de faire des petits parcours comme ça, tonique, et ben ça anime. Et puis voilà, on a les Français qui sont plus des coureurs de classiques. Maintenant, c'est le Tour de France, c'est des classiques pratiquement tous les jours. Le seul défaut, c'est encore le nombre de coéquipiers dans une équipe. Si on arrivait à le diminuer,
ils vont passer à 8, là.
Oui, mais si on arrivait à le diminuer à 6, comme on voudrait, ça serait l'idéal. Parce que quand on, si on parle de l'équipe Sky, qui ont 7 coureurs qui pourraient être leaders dans chaque équipe, c'est sûr que voilà, c'est difficile. C'est comme le Barça ou qui recrute. Voilà, derrière, on peut pas faire grand chose. Donc, et on le voit d'ailleurs sur une épreuve juste d'une journée, quand les individuels sont là, Sky sont pas forcément là. Et donc. Et bon, c'est vrai que des belles attaques, de beaux coureurs français.
Oui, un bon tour, hein, en 2017,
un très bon tour.
Plaisir, parce qu'on va souvent sur le tour, nous. Et on s'est un peu ennuyé ces dernières années. Là, cette année, c'était sympa.
Voilà, mais maintenant, c'est sympa. Puis je pense que le futur, là, 2018, il promet. Et puis surtout Barguil, quoi, qui a un caractère, qui a eu une année sans, parce que suite à une chute en début de saison, il a bien réussi à revenir. Et puis, un caractère, on dit, un caractère de Breton, c'est important. Mais moi j'avais vu, hein, c'était comme le même jeune à 20 ans qui avait réussi à l'époque Cancellara, lui dire Cancellara que vous prenez un relais, il dit non, j'ai un copier devant moi, et lui dire vas-y tu roules. Il avait déjà du caractère à 20 ans. Donc et puis maintenant son caractère ressort et puis on voit dans les courses, hein, c'est un dynamique, c'est voilà.
Alors, un des faits marquants aussi de l'année en matière de vélo pour nous, ça a été le Paris-Nice, hein, avec Henao donc qui s'est imposé sur le final du Paris-Nice, mais surtout une super étape en vallée de Chevreuse, hein, qui est partie de Bois d'Arcy pour arriver à Bois d'Arcy. Super étape, c'était étape gagnée par Arnaud Demar ce jour-là. Et le lendemain, on y était avec Jean-Pierre, un départ très mouillé depuis Rochon en Yvelines.
Ah oui, très mouillé, oui. Très 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 mouillé, comme en ce moment, oui. Non, bah oui, c'est une étape dans la vallée de Chevreuse, on pensait que ça allait être un peu plus tranquille que ça, mais non, ouais, parce que la vallée de Chevreuse, il y a les monts, mais c'est surtout qu'il passait d'un côté pour sortir de la vallée de Chevreuse pour y rentrer par la plaine. Et la plaine, bah, ça fait les dégâts qu'on comptait, parce qu'avec un beau vent, puisque je me rappelle ce jour-là, cette épreuve-là est failli être annulé 2 heures avant puisqu'il y avait des rafales de 90-100 km/h, donc il y avait encore des conditions climatiques qui étaient très 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 difficiles, puisque nous si on organisait sur fin, il avait fallu qu'on réduise la course, mais voilà, du bon vent et puis très animé, et puis bon, c'est vrai que la vallée de Chevreuse s'y prête, hein, pour des courses, hein, c'est vraiment le parcours idéal, un peu le parcours des Flandres chez nous, quoi.
Alors Olivier, on va quand même rappeler que l'effet marquant aussi, c'est qu'on prolonge le Tour de France chaque année par le Critérium de Longjumeau. C'est dans l'Essonne, c'est pas très loin d'ici. C'est un beau succès, c'est sympa. Le seul Critérium francilien donc qui existe.
Oui, ben avec Eric Ramos qui a réussi à relancer ça. Donc maintenant c'est la troisième.
Victoire d'Offredo cette année.
D'Offredo. Ouais. Et puis bah, ça amène du monde. Puis c'est original avec les derniers en
juste après le Tour de France.
Là, voilà, c'est sympa. Et puis c'est vrai que ça manque dans la région, mais c'est compliqué d'organiser dans la région, donc c'est pour ça qu'on a du mal. Alors si on a Paris-Nice, Tour de France, on peut organiser. Maintenant, les épreuves qui sont en dessous, c'est compliqué, très très compliqué d'organiser. Donc c'est un grand... avec la mairie de Longjumeau, ça se passe très bien, mais c'est assez compliqué d'organiser des courses dans la région. Donc à part le Tour de France et Paris-Nice, ça devient de plus en plus compliqué.
Alors, fait aussi important dans notre région, sur le plan régional, il y a eu les championnats de France des sapeurs-pompiers organisés à Poigny-la-Forêt, hein, gros et beau succès populaire, et des épreuves de très 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 haut niveau.
Oui, comme on dit, on a le terrain qui s'y prête, hein, le Sud-Yvelines est vraiment un terre de cyclisme, hein, avec le départ de Paris-Nice depuis plusieurs années, et puis c'est vrai que avec les championnats de France des pompiers, on arrive à un bon niveau, hein, c'est des coureurs qui sont des premières catégories en FFC, un beau parcours, ouais, on a eu la chance, beau, un week-end magnifique.
On était Lima, donc tout allait bien.
Voilà, c'était vraiment un week-end magnifique, c'était et très très beau temps, et puis une bonne participation des coureurs. Oui.
Et puis ça aussi c'était une année importante pour vous. Vous avez fêté les 40 ans de votre club. On y était aussi, hein, c'était sympa. Bon là il pleuvait par contre.
Voilà, le matin on avait commencé par Gentleman pour commencer. Puis les 40 ans l'après-midi qu'on a fêté en réunissant les derniers, tous les présidents, les 40 ans de coureurs qui étaient.
C'est important 40 ans dans la vie d'un club. Hein.
C'est important. Ça prouve le dynamisme de. Ça se repose beaucoup sur les dirigeants, sur les partenaires. Et puis pouvoir être à notre niveau, quoi. On n'essaie pas d'aller trop haut parce que on est un club départemental, on n'essaie pas d'aller vraiment dessus. On a des jeunes coureurs qui sont sortis, qui sont même certains qui sont passés professionnels, mais voilà, on sait qu'il faut les lâcher pour aller dans des grands clubs. On n'essaye pas de les garder Hein, pour eux sportivement, puis pour nous, ben, après on ne peut pas gérer, c'est pas, il faut régler.
Alors vous, un des faits marquants de l'année, c'est naturellement parmi vos très nombreuses organisations, ce qu'on appelait jadis la Sud-Yvelines cycliste, c'est un temps fort, et puis bah, quand on va sur la Sud-Yvelines cycliste, il y a un petit parfum de Tour de France. Quoi.
Bah, c'est le Tour de France des amateurs. Hein,
avec des maillots distinctifs, tout ça et tout, quoi, en deux jours,
voilà, quatre étapes en deux jours, des maillots distinctifs, hein, puisqu'il y a six classements individuels avec des maillots représentatifs, donc c'est pour ça que les coureurs régionaux, c'est un peu leur Tour de France, puisque même régionaux, parce qu'on a des coureurs qui viennent de toute la France, hein, qui viennent aussi bien de Lille que de Lyon et puis de Bordeaux. Donc c'est voilà, c'est le petit tour et puis voilà, une bonne dynamique. Ça fait quand même 180 coureurs sur les routes de Sud-Yvelines. Bon, une bonne organisation, oui, un gros projet. Et puis qui commence à sa réputation, puisqu'on va arriver à la 14e édition. Voilà. C'est, et puis bon, c'est de l'orienter vers le sport féminin, essayer de le faire, on en parlait peut-être avoir dans l'avenir le tour de Sud-Yvelines féminin.
Très bien, ok. Allez, on vient à la piste. Ça avait commencé l'année mai 2017 au parc, par quelqu'un qu'on connaît, qu'on croit souvent, qui est charismatique, Robert Marchand, chez les vétérans, qui donc a battu le record du monde de l'heure, hein, ni plus ni moins, 22 km 547 en une heure à 105 ans.
Voilà, 105 ans, un grand effort et magnifique, quoi. Comme il a commencé le vélo qu'à 62 ans.
Hein. Oui.
Donc voilà, comme quoi on dit ça conserve, mais c'est vrai.
Voilà. Alors sur la piste au championnat du monde à Hong Kong, la France termine deuxième au tableau des médailles derrière l'Australie. Trois médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze ont été titrées donc François Pervy, Thomas en omnium et Thomas Keski en américaine. Et au championnat d'Europe à Berlin, cinq médailles d'or, une médaille d'argent, deux de bronze. Là aussi deuxième nation derrière l'Allemagne. On en parlait tout à l'heure avec Hervé. Le cyclisme sur piste français est en train de retrouver une équipe compétitive.
Voilà, on est en train d'en trouver. Puis il y a la future génération, bon, puisqu'on a la chance d'être à côté de 50 ans de Yvelines, on voit la future génération. Avec la petite crosse là qui arrive, qui va, je pense que.
Oui. On l'a vu aux victoires sportives voilà, de France,
je pense que
le 15 décembre dernier.
Si
ancienne basketteuse.
Ancienne basketteur, qui a été découverte par hasard par un professeur de fitness, hein, qui voyait que ses puissances sur homme trainer qui dépassait tout le monde. Et maintenant sur piste, et, ben, en tant que junior à Titi, même bas les seniors, je pense que si son profil continue très bien, je pense que c'est la future Ballanger. Oui. Avec de beaux titres et donc sera prête pour les prochains Jeux Olympiques. Et donc on a toute cette génération, même de sprinteurs féminins masculins qui arrivent, de jeunes qui sont très présents. Sur le chrono, on a aussi pas mal d'espoir, puisqu'on a Morgan et puis Benjamin Thomas qui sont toujours présents. Et puis bon, voilà, une bonne future génération que je pense que pour renouveler, on y a eu un coup de pied dans la fourmilière au niveau staff, donc ça a bien fait. Une bonne réaction, puis bon, maintenant, dans deux ans, je pense qu'on sera revenu au grand niveau qu'on avait connu ces dernières années.
Très bien, allez, la pub, la musique, et ensuite, on parlera boxe et on enchaînera ensuite la deuxième partie de cette émission.
Nouveauté à l'Abbatienne de Menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez votre devis gratuit au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'Environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Richard répare l'entretien de votre véhicule à domicile. Un pro à votre service. Vidange, frein, amortisseur, courroie de distribution, échappement. Contactez Richard au 06 99 71 22 57 ou par mail rr78ablis@gmail.com. Intervention 7 jours sur 7. Devis gratuit. Pour votre bien-être et celui de votre voiture, pensez Richard répare. Simple et rapide, rr78ablis@gmail.com. Donnez vos coordonnées, Richard vous rappelle et se déplace pour vous. rr78ablis@gmail.com. Le service personnalisé à domicile.
Se souviennent de nos matins livides, que le sang de mes veines se fige ou bien se vide, que mes doigts ne retiennent que l'odeur de ta peau, que mon corps t'appartienne bien au-delà des mots. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi, je t'oublierai, je t'oublierai. Que mes pieds se sable où tu marchais. Que ta voix me revienne dans un supermarché. Que la télévision me renvoie ton regard. Qu'on appelle ton prénom dans un aérogare. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi. Je t'oublierai, je t'oublierai. La lune et le soleil se souviendraient de toi. Comment veux-tu que moi, tout à coup, je t'oublie? Même si dans mon sommeil, je te touche, je te vois. Je ne reconnais pas le jour d'avec la nuit.
Donc toujours aucun champion du monde de boxe en France. Hein, après la perte donc du titre WBA face au japonais Murata de François Assam Ndiaye Jigam, on a quand même un champion d'Europe tout près d'ici, donc à Verrières, donc Adila Mukundi, qui est devenu champion d'Europe des super moyens. Et puis il y a eu une première réunion de boxe organisée à Saint-Quentin en Yvelines au Vélodrome.
Au Vélodrome,
ouais, c'est un énorme succès.
Voilà, un bon succès. Il était plein, même 15 jours à l'avance, il n'y avait plus une seule place. Donc un très bon succès, je pense qu'un avenir pour essayer de redynamiser un peu aussi le vélodrome, le cyclisme et puis aussi la boxe au milieu, s'y prête très bien pour l'activité.
Et puis en boxe, le match de l'année, ça a été quand même la victoire de Floyd Mayweather, quand même. Hein. Ça a été quand même qui s'est imposé par arrêt de l'arbitre face à l'Irlandais McGregor. Arrêt au 10e round. McGregor, il vient du MMA. Ça a été un combat qui a tenu toutes ses promesses. Mayweather, il termine invaincu, avec 50 matchs sans défaite. Il met un terme à sa carrière là-dessus. Et finalement, il dépasse le grand, l'immense Rocky Marciano.
Oui, une carrière exemplaire. Hein. Même le dernier défi qu'il a fait, parce que c'était pas évident de faire contre un MMA, parce que c'est une boxe différente.
C'est un bon combat.
Un bon combat, mais une boxe différente, et il a su s'adapter, il a su faire preuve de ses capacités.
À 40 ans, on va rappeler.
Voilà, à 40 ans, voilà. Ouais. C'est pour ça un grand défi tout au long de sa carrière, parce que en fin d'année, en fin de carrière, faire un combat contre un boxeur MMA qui est complètement différent, c'était la preuve qu'il était le meilleur.
Alors c'est la fin de carrière pour Souleymane Ndiaye, hein, à 42 ans, ex-champion du monde, super léger, qui a décidé d'arrêter son sport. Hervé.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire.
Les Français qui n'ont plus de champion du monde de boxe, c'est quand même assez.
Assez
phénoménal. On en a eu un qui a perdu son titre.
Voilà, on en a plus chez les professionnels. Ouais. Par contre, cette année, on a eu un champion du monde chez les amateurs, notamment, c'est Sofia Noumia, là, qui avait déjà terminé médaille d'argent. À Rio, qui est devenu champion du monde cette année à Hambourg en finale des poids légers en battant Alvarez Estradal cubain. Donc champion du monde chez les amateurs.
Et Tony Yoka qui monte progressivement, qui commence chez les professionnels de façon progressive.
Alors, on va pas s'emballer.
Ça fait un peu comme Assoum.
On va attendre qu'il ait des adversaires un petit peu plus consistants pour voir réellement ce qu'il a dans le ventre, même si, bien entendu, on connaît tous ses talents.
Oui. Voilà. Donc pour la boxe, c'est bien le Vélodrome de Saint-Quentin. On parlait justement de la boxe qui arrive. Il y a aussi d'autres sports comme le hand ou les championnats de France de judo qui ont eu lieu aussi au Vélodrome de Saint-Quentin.
Du tennis aussi. Badminton. Qui marche très bien. J'irais, c'est un Vélodrome qui est multidiscipline. Je regarde, c'est qu'on n'accentue pas trop sur le vélo, mais bon, c'est un problème.
C'est quand même.
Mais pas assez. Quand on voit la location d'un vélodrome par jour, c'est metteur de prix pour tous les clubs. Même la Fédération française ne fait plus les championnats de France au vélodrome, tellement que c'est cher, donc pour vous dire. Mais donc, de pouvoir l'utiliser pour d'autres disciplines, c'est très bien, puisqu'on arrive à le remplir.
Ils peuvent pas faire autrement. Hein.
Voilà. Mais ils peuvent pas faire autrement. Voilà, c'est un des problèmes français de pouvoir gérer ces monuments sportifs. On a du mal à le faire en France.
Très bien, voilà pour donc la fin de cette première partie d'émission. On retrouvera après Hervé Guérin, on parlera tennis, golf, on va parler aussi de sport mécanique, on parlera de voile, et on verra passer le rugby, on salue notre ami J. Schmitt qui est arrivé, et puis on finira avec le foot. Mais pour l'instant, c'est le carillon de 10h, on se retrouve d'ici quelques petites secondes. Allez, on y va, c'est prêt, c'est parti. Ouais,